candidate en blanc. Cette Égypte était tombée en léthargie et elle était devenue une province ottomane, un peu secondaire. Jusqu'au jour où, effectivement, Bonaparte est arrivé en 1798 avec son équipe de savants. Tous les savants français, pratiquement de l'époque, étaient là-bas. Il n'y a aucun résidu de Monge. Monge faisait partie de l'équipe. Et. D'ailleurs, on raconte au moment de la bataille d'Aboukir, tous ces savants étaient là, et tout d'un coup, Napoléon s'en est rendu compte et il a dit à ses généraux, les savants et les ânes au centre. Alors, donc, les savants ont accompagné l'expédition militaire et ont fait cette merveilleuse description d'Égypte que vous connaissez. Et donc, ça a révélé l'Égypte. Et dans le cadre de la campagne militaire qui a amener la chute au départ de un monsieur d'un âge déjà assez avancé, venant de Kabbalah, du nord de la Grèce, qui était négociant en tabac, qui était prospère, Mohamed Ali, le Mehmet Ali, d'origine plutôt turque que kabbalaise, d'après sa famille. On a souvent dit que c'était une famille albanaise. Kabbalah, c'est juste au nord de l'île de Thasos, en Grèce. Et cet homme est venu là-bas, et dans les armées du sultan, et finalement, dans quelques années, a pris le pouvoir, s'est imposé, et puis, à partir de là, il a fait de l'Égypte un centre de pouvoir, qui est autour d'Alexandrie surtout. Et là, il a entrepris de développer l'Égypte. Il a fait venir énormément de spécialistes français, parce qu'il était très impressionné par l'armée égyptienne et par la française. Le colonel Sèvres, c'est le même Pacha qui s'est converti à l'islam et qui, d'ailleurs, on s'en trouve dans les thèmes du roi actuel, puisque le roi est le fils de Pharaon. À partir de ce moment-là, l'Égypte lutte pour devenir un grand pays. Et pour devenir un grand pays, il faut acquérir des pays riches, des pays européens. Donc on prend le modèle européen sans aucune hésitation pour tout ce qui est du développement. Et Et finalement, c'est le parti de ceux qui veulent le canal qui l'emporte. Il l'emporte aussi parce qu'un lien d'amitié s'est établi entre Ferdinand des Esteves et Saïd, qui est le fils de Mehmet Ali, qui prend le pouvoir, de son père, donc qui donne la concession. Après avoir hésité un petit peu, mais on dit que c'est au retour d'une chevauchée dans le désert qu'il a annoncé qu'il était d'accord. Et à partir de cet accord, c'est toujours l'Égypte qui est proprement en fait. C'est un canal qui se fait en Égypte à la demande des Égyptiens, c'est sous le contrôle politique de celui qui dirige le pays. Il dépend encore nominalement d'Istanbul, mais qui en fait dirige le monde. Et là, à ce moment-là, il y a le problème, commence à se compliquer. Il y a la question de la corvée, en nous parlant, bien sûr, la question de la corvée, qui fait qu'une grande campagne internationale s'organise, en partie orchestrée par les Anglais, mais qui dénonce la corvée. Et donc, à ce moment-là, le canal passe à la mécanisation. C'est pour la première fois que les machines sont utilisées pour creuser le canal. C'est la première fois qu'on utilise ce genre de machine pour creuser une voie d'eau. Et le canal coûte plus cher que prévu. Donc, on demande, les sept demandent au sultan de l'argent. Donc, celui qui n'est pas encore crédible, le gouverneur, le wali, je ne sais pas comment on l'appelle. Et on lui, à ce moment-là, les gens s'endettent. Et puis, petit à petit, elle tombe dans un piège. L'Égypte endettée finit, ça sera le successeur qui fera vendre sa part d'action. Elle n'est pas majoritaire, mais avec 44% face à des petits actionnaires émiettés, elle est largement, elle domine le canal, la construction. C'est elle qui a le pouvoir. Mais finalement, ce sont les Anglais qui rachètent. Voilà. Donc, mais non content d'avoir racheté le canal, les Anglais, pour plus de sécurité, s'emparent carrément d'Égypte en 1889. L'Égypte continue à être ottomane, finalement, mais voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, le nationalisme égyptien fait de ce point le nationalisme égyptien commence très tôt. Commence au début du XXe siècle. Et les buts existent parce que c'est une présence anglaise, mais il y a tout de même un gouvernement égyptien, il y a tout de même un parlement qui est consultatif au départ, et puis après 1920 qui est un parlement normal, il y a des presses, il y a. Donc à partir de ce début de siècle, l'Égypte commence réellement à lutter, les Égyptiens commencent à lutter contre la présence étrangère, et donc ça rentre dans cette époque. Connaît un grand marbre au moment d'arrêt en 1956 avec la nationalisation du canal. Alors, pour faire cette exposition, nous avons absolument tenu à ce qu'il y ait avec nous des Égyptiens. Nous avons eu la chance d'avoir au Caire, à l'université du Caire, un professeur de l'université du Caire, Mme Randa Sabri, qui a coordonné notre travail au Caire. Et nous avons eu des réunions régulières et nous avons veillé à leur présenter notre projet à toutes les étapes. Parce que c'est bien beau d'avoir un regard bien intentionné sur l'histoire de l'Égypte, mais d'entendre mieux un regard égyptien. De toute façon, c'est complémentaire. Et donc nous avons tenu aussi à ce que cette équipe égyptienne participe à nos décisions et participe également à le catalogue. Le catalogue sera en grande partie, peut-être pas qualifié tout à fait, mais presque, écrit par des Égyptiens. Voilà l'histoire que nous avons voulu raconter. C'est un grand moment de l'histoire mondiale. Il y a eu plusieurs pays qui ont eu cette volonté de se moderniser, voyant que l'Europe allait tellement vite qu'un jour ou l'autre, vous allez avoir des problèmes. Il y a eu le Japon, il y a eu l'Empire ottoman tout entier. Il y a eu la Tunisie et l'Égypte. Voilà, ce sont les quatre pays au monde qui ont fait cette tentative. Le Japon, peut-être à cause de son éloignement, a été empêché. L'Égypte et la Tunisie ont dû marquer. Marc-Alexandre Daheb,